C'est d'actu, en direct depuis la 77e édition du Festival de Cannes, une émission présentée par Robin Hulin.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est d'actu. Une émission enregistrée depuis la Croisette dans le cadre d'une semaine spéciale consacrée à la 77e édition du Festival de Cannes. Alors au programme de ce nouveau numéro, on va faire un petit bilan de cette première semaine de festival. Oui, parce que nous sommes déjà à la fin de la première semaine de compétition et presque à la moitié de cette 77e édition. Alors on reviendra sur les moments forts qui ont marqué ces premiers jours. Et puis on continuera notre visite du festival. Dans le numéro précédent, on vous a présenté le célèbre tapis rouge, le théâtre Lumière, ses paillettes, ses couleurs, ses robes de soirée. Aujourd'hui, je vous propose de rester dans le palais et de vous présenter d'autres lieux dont on parle moins, comme le centre des médias par exemple. Donc on va aller aux alentours du palais, puis on va passer derrière et vous verrez qu'il se cache beaucoup de choses. Effectivement, comment se passe la couverture médiatique, puisqu'on estime que 4000 journalistes couvrent l'événement pour près d'une centaine de pays différents. Et puis un jour, un focus. Aujourd'hui, je continue de vous présenter une des sélections à Cannes. Et dans ce numéro, on va parler de la Ciné Fondation, qu'on appelle aussi la tête chercheuse du festival. Elle propose différentes catégories de prix et d'accompagnement pour les jeunes cinéastes, vous verrez. Toujours dans les sujets d'aujourd'hui, on va évidemment parler d'un film projeté ce samedi. C'était à l'occasion de la quinzaine des cinéastes. Il s'agit du long métrage Une langue universelle, une comédie de Matthew Rankin, absurde et drôle, un long métrage pince sans rire, où les enfants semblent parfois plus responsables que les adultes et où les rôles sont parfois inversés. Et enfin, notre invité du jour, un manceau, Malo Ghislain, le programmateur du cinéma Les Cinéastes, sera avec nous sur la Croisette. Dans ce premier entretien, il reviendra sur ses missions en tant que programmateur pendant le Festival de Cannes. Alors que fait-il? Comment travaille-t-il et prépare-t-il la programmation à venir de son cinéma d'art et d'essai? Et puis, dimanche, nous le recevrons ensuite pour parler de ses coups de cœur et des films qui l'ont marqué cette semaine. Voilà pour les sujets aujourd'hui, alors on embarque pour ce nouveau numéro. Mushkinap, black bees came to make it hotter. We beat the fire, starter, bubbling up just like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya with hip hop mix up with samba, with samba. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black bees. On démarre cette émission spéciale depuis Cannes en vous faisant un petit bilan de ces premiers jours de festival. Nous sommes le cinquième jour de l'événement. Alors quels ont été les moments marquants? Il y en a plusieurs. On se souvient tous de l'ouverture du festival et de la montée des marches par Judith Godrèche, main sur la bouche pour dénoncer son combat contre les violences sexuelles et sexistes dans le monde du cinéma. À titre plus personnel, je ne suis pas le seul à partager ce point de vue, l'événement majeur de cette première semaine, c'est aussi le retour de Francis Coppola avec Mégalopolis. Bien que la grosse production ne nous ait pas tous convaincus, son retour après presque 15 ans d'absence, sous les acclamations du public, avec un projet de près de 40 ans, rend cette nouvelle édition du Festival de Cannes particulièrement attractive. Et enfin, comme troisième moment, on pourrait citer le discours de Camille Cotin lors de la cérémonie d'ouverture, engagé mais profondément juste pour dénoncer les violences et discriminations au sein du monde du cinéma. Voilà, pour entamer cette première partie, je vous propose de vous emmener au sein du palais du festival, non pas pour découvrir les marches rouges cette fois-ci, mais pour vous parler des journalistes et de la couverture médiatique de cette nouvelle édition et pour savoir tout ce qu'il se passe en coulisses, évidemment. Pour commencer, dans cette édition 2024, ce sont près de 4000 journalistes qui sont amenés à couvrir l'événement. Ils proviennent de près de 90 pays aux quatre coins de la planète. Il faut savoir que le palais du festival se présente comme un village à part entière, au sein de la ville presque, comme dans beaucoup d'événements d'ailleurs. Quand vous arrivez sur la Croisette, se présentent face à vous les marches rouges et l'entrée du Grand Théâtre Lumière, ça on en a parlé. Mais si vous êtes journaliste comme moi, c'est sur le côté que ça se passe. Alors on se dirige sur la droite, on avance. On prend l'avenue de la Croisette, on fait des coudes pour passer entre les touristes, les voitures, les barrières. Oui, parce qu'il y a beaucoup de barrières, il y en a partout. Subitement, soit à 11h, 14h, 18h, 21h, la route est barrée et on n'a plus le droit de passer. C'est comme ça, on s'y habitue. Et puis face à nous, on découvre un premier portique de sécurité, puis un deuxième, puis un troisième, le tout en l'espace d'une centaine de mètres. Et entre-temps, entre chacune de ces étapes, on peut admirer les innombrables yachts entassés sur le port en train de dorer au soleil, près de l'entrée presse. Et à croire qu'on peut trouver certaines célébrités, puisque la seule chose qui nous indique cela, c'est qu'on découvre parfois, subitement au milieu de la journée, une masse de photographes entassés au plein milieu de notre passage. Une fois le dernier portique de sécurité passé, on a vraiment l'impression d'entrer dans le village. Alors nous aussi, on a nos marches rouges, et on entre enfin dans cette partie du palais du festival. Et en arrivant, on débarque sur le marché du film. Je vous en ai parlé le premier jour, façon salon commercial. Il y a des centaines de stands, ils sont tous collés les uns aux autres, et on se faufile donc dans les avenues, c'est un vrai labyrinthe. Comme dans tous les labyrinthes, on se perd. Mais on finit par trouver. On avance, on dépasse les stands, on prend un, deux escalators, et nous voilà arrivés. Dans la deuxième partie du marché du film. Alors c'est toujours pas ça, donc on recommence, on avance, on continue. Et on finit par voir la lumière au bout de tout ça, un immense hall où ça court et ça marche de partout et où se dresse devant nous un grand escalier avec plusieurs étages. En prenant l'ascenseur, on se retrouve au troisième étage et c'est le fameux Media Center, le centre de presse, où les journalistes sont assis à droite, à gauche, par terre, sont debout, sont allongés, il y en a qui courent. Et puis il y a surtout quelques files d'attente très longues en plein milieu du passage, à quelques minutes de certaines conférences de presse, qui ont lieu plusieurs fois par jour, puisque les réalisateurs et acteurs viennent présenter les films, surtout ceux qui sont en sélection officielle. Donc voilà comment se présente le centre de presse en plein cœur de ce palais du festival, une véritable usine qui fait vivre l'information et vous permet d'être relié à cet événement tous les jours. Je souhaitais partager ça, histoire de vous faire découvrir un peu l'envers du décor, surtout ce qu'il se passe derrière, et de voir à quoi ressemblent les lieux de confection de ces émissions. Parce qu'il n'y a pas que les marches rouges, il y a aussi les coulisses. Après cette introduction, place au premier sujet du jour. On va parler de Ciné Fondation. Avant ça, une petite pause musicale. On écoute Tame Impala et Borderline. A tout de suite sur notre antenne.
Oh,
De retour dans cette nouvelle partie d'émission, nous sommes toujours depuis Cannes et La Croisette pour une édition spéciale de la 77e édition de ce Festival de Cannes. Et comme tous les jours, je vous propose un focus sur une sélection en particulier pour découvrir à quelle occasion sont présentés les nombreux films de la quinzaine. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Ciné Fondation. Elle est parfois appelée la tête chercheuse du festival, qui est consacrée à la jeunesse et à la création cinématographique. Elle a été créée par Gilles Jacob en 1998, et son président n'est autre que Pierre Lescure. Elle soutient le cinéma et projets de films à travers différentes actions. Il y a un soutien à l'écriture, un autre à la reconnaissance sur la scène internationale par exemple, en passant aussi par la recherche de financement également. Et on trouve donc trois catégories. La sélection, ça c'est la première. C'est une vingtaine de films d'école qui sont présentés en sélection officielle à Cannes. Pas en compétition officielle, attention. C'est un des volets de la sélection officielle, comme on pourrait dire. Et le jury décerne un prix qui est aussi le même que celui des courts-métrages. Et ce prix va pour les trois meilleurs films d'école sélectionnés à Cannes. Autre catégorie, la résidence. 12 réalisateurs par an sont invités à Paris pour écrire pendant plusieurs mois leur scénario de premier ou deuxième long-métrage. C'est une façon de faire une transition avant de plonger dans l'univers du film et du long-métrage. Et enfin, Ciné Fondation propose aussi l'atelier. Ce sont 15 cinéastes qui sont invités à rencontrer les professionnels du cinéma à Cannes pour compléter le financement de leur projet de film. Donc là aussi, un volet de formation pour apprendre la gestion d'un budget et d'apprendre ces différents contours qui concernent les métiers du cinéma. Voilà pour cette rubrique, un jour un focus. Maintenant il est peut-être l'heure de s'écouter une pause musicale, puisque dans quelques instants on parlera de films, toujours avec Matthew Rankin qui présente Une langue universelle. Il était projeté ce matin à l'occasion de la quinzaine des cinéastes. Avant ça, je vous propose U2 et Beautiful Day. A tout de suite sur notre antenne.
Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful we'll
De retour pour cette nouvelle partie d'émission et il est l'heure de faire un focus sur un film en particulier. Ce samedi matin, nous avons pu assister à la projection du film « Une langue universelle ». C'est présenté dans le cadre de la quinzaine des cinéastes et c'est un film réalisé par Matthew Rankin. Alors par où commencer ? Le synopsis, peut-être. Un certain Matthew quitte Montréal pour retrouver sa mère malade dans son Winnipeg natal. Très sincèrement, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant le synopsis de ce film. Alors, à part que deux enfants se lancent dans une aventure pour trouver une hache, briser la glace et sortir un billet qui a une forte valeur en argent. En réalité, c'est une comédie particulièrement burlesque que nous propose Matthew Rankin. Dans un univers absurde, parfois illogique, mais souvent maîtrisé. On ne tombe pas dans le déjanté non plus. En réalité, on a le sentiment de voir parfois un peu de Wes Anderson. Des plans fixes, des personnages originaux, des dialogues construits et bien écrits, mais pas toujours très logiques. Justement, sur les dialogues, les protagonistes parlent français, puis persan, puis français, et s'alternent comme ça pendant 1h30. Et ça fonctionne, parce que c'est drôle, et c'est très réussi là-dessus. L'autre particularité de ce film, c'est la place des enfants. Les rôles semblent parfois inversés entre des adultes irresponsables, colériques, imprévisibles, et des enfants, eux, qui endossent le costume d'êtres humains responsables avec la tête sur les épaules, qui savent où ils vont et ce qu'ils font, et qui voient aussi quand on essaye de les berner et de les mener en bateau. Un point négatif dans ce film peut être justement le scénario lui-même en fin de compte. À vouloir miser sur l'absurde tout au long de ce long métrage, Matthew Rankin finit parfois par nous perdre un peu. Entre les dialogues de sourds et les séquences qui s'enchaînent rapidement, si on a le malheur de détourner la tête 10 secondes, ben on a un peu perdu le fil pendant 5 minutes après. Donc voilà, c'est un peu le seul point négatif, parce que pour finir, malgré tout, c'est un film que je conseille. Il est efficace dans les codes de l'humour, par l'absurde, avec son rythme lent, qui peut être tenté de vous endormir, mais il finit toujours par vous surprendre avec un dialogue lunaire, très finement écrit, et entre des personnages très drôles. Voilà pour ce film, vous aurez peut-être l'occasion de le retrouver au cinéma Les Cinéastes dans les mois qui arrivent. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. On sera justement à propos des cinéastes avec Malo Ghislain, le programmateur de ce cinéma d'art et d'essai au Mans. Il vient nous parler de son déplacement à Cannes et surtout des missions d'un programmateur pendant cette quinzaine. Avant ça, on écoute Moby et Natural Blue. A tout de suite.
Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Happy.
so hard. Oh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
De retour dans cette dernière partie d'émission, nous sommes toujours à Cannes pour la 77e édition de son festival. Et à cette occasion, il est l'heure d'accueillir notre invité du jour. Pour entamer ce week-end au Festival de Cannes et sur la croisette, quoi de mieux que de recevoir un manceau, puisqu'aujourd'hui je suis avec Malo Ghislain. Bonjour.
Bonjour Robin.
Programmateur du cinéma d'art et d'essai Les Cinéastes au Mans, que nos auditeurs connaissent bien. Donc tous les ans, tu vas donc au Festival de Cannes pour regarder des films, pour préparer la programmation à venir pour notre cinéma d'art et d'essai dans les semaines et les mois qui arrivent. Alors aujourd'hui, on ne va pas forcément parler de films et de sélection, on va parler de toi et de tes missions. Les films, les coups de cœur, on en parlera surtout demain. Donc comment un programmateur travaille pendant la quinzaine? Qu'est-ce que tu prépares réellement et comment la suite se passe? Pour commencer, Malo, ça fait plusieurs années que tu pars au Festival de Cannes. Alors avant de rentrer un peu en détail sur ton travail sur place, déjà quel est l'objectif et l'enjeu d'un programmateur de cette profession, de ce métier, d'être sur place pendant la quinzaine?
Il y a plusieurs niveaux, d'enjeux, évidemment. Le premier, c'est l'évidence, c'est de voir des films, ça c'est la priorité. Mais si on occulte cette partie-là, il y a aussi tout le côté relation avec les distributeurs, parce que souvent quand on est spectateur, on voit des films et on voit des réalisateurs, mais on oublie un petit peu qu'il y a des distributeurs derrière tout ça, et il y a aussi, quand on a un cinéma à essai, une défense d'un certain style de cinéma. Alors évidemment, à Cannes, ça paraît facile, parce que tous les films qui passent à Cannes, quasiment, sauf certaines séances spéciales, sont labellisés ou seront labellisés art et essai, mais il y a aussi cette dimension de pouvoir rencontrer les distributeurs, approfondir le travail. Ça c'est quelque chose qu'ensuite on essaie de mettre en place au cinéma sur toute l'année, mais moi, à titre personnel, j'ai évidemment des distributeurs avec lesquels j'aime davantage travailler, mais c'est aussi l'occasion à Cannes d'en rencontrer d'autres, de pouvoir creuser un petit peu, dessiner un petit peu ce que sera l'année à venir avec les films, mais pas que. Et puis il y a aussi des rencontres importantes, comme chaque année, moi je reste les deux semaines du festival, et avant l'ouverture du festival, on a trois jours qui s'appellent les journées AFKE. C'est des rencontres avec des professionnels qui sont tous représentants de cinéma qui appartiennent à l'AFCAE, qui sont adhérents à l'AFCAE, donc l'Association Française des Cinémas Arts et Essais. De plus en plus chaque année, il y a de monde à ces rencontres-là. C'est trois jours avant Cannes. On voit 10 films qui sont tous en sélection officielle, sauf compétition. Et il faut savoir qu'il y a 10 ans, il y avait 200, 300 personnes. Aujourd'hui, là, en salle de Bussy, on atteint le palier, on remplit la salle, on est plus de 1000. Quoi. C'est assez énorme. Ça témoigne aussi qu'il y a de plus en plus de salles qui sont labellisées à essai, de plus en plus de monde qui veulent participer à ces rencontres aussi, parce qu'ils s'y disent des choses importantes. On ne va pas rentrer là dans le détail cette année, mais chaque année, il y a une AG, on peut rencontrer le CNC, les pouvoirs publics. Et c'est important d'être dans ce moment-là, parce que c'est le seul moment, on va dire, c'est le seul moment de l'année où vraiment tout le monde se rencontre, qu'on soit un mono-écran dans le Jura ou un exploitant qui possède plein de salles en région parisienne. Le point commun, c'est qu'on va tous être au même endroit, voir les mêmes films, assister aux mêmes discussions. Donc ça permet aussi de créer des échanges avec nos camarades, échanger sur les problématiques de nos métiers. Donc tout ça, c'est fondamental.
Comment est-ce que tu prépares l'organisation de ton départ en amont du festival, les semaines d'avant? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qu'on doit mettre en avant pour se préparer à une nouvelle édition du Festival de Cannes?
Quand on est habitué, la seule chose à faire, c'est de choper ses billets et son accréditation. Et puis ensuite, tout roule, j'ai envie de dire. Une fois qu'on a nos marques, c'est relativement simple, c'est assez balisé. Ça paraît énorme, Cannes, mais finalement, c'est un tout petit village. Pendant 2 semaines, on va vivre entre quelques lieux, une dizaine à tout casser. Je pourrais même dire 10 lieux en comptant les restos et les cafés qu'on connaît bien pour aller vite. Mais c'est pas tellement compliqué. Ce qui est compliqué, en fait, c'est de réussir à faire tout ce qu'on voudrait faire en l'espace-temps qui nous est proposé. C'est très court parce qu'on est obligé de se lever tous les matins à 6h50. Tous ceux qui sont à Cannes le savent aujourd'hui. C'est la billetterie chaque jour s'ouvre à 7h pour dans 3 jours, etc. Donc quand on reste 2 semaines, ça veut dire qu'on dort pas beaucoup. Et évidemment, on va essayer de voir aussi des gens, de faire des rendez-vous professionnels. Donc caler des rendez-vous professionnels quand en même temps on voit 5 films par jour, faut bien se douter que c'est pas toujours évident. Donc faut essayer de se créer un rythme. Moi sur 2 semaines j'essaye quand même de prioriser les films avant tout, mais faut aussi se laisser cette petite marge de manœuvre pour pouvoir créer des rencontres. C'est dans ces moments-là que parfois on fait des rencontres qui peuvent être décisives pour l'avenir, pour des nouveaux projets, pour de la créativité de nouveaux événements qu'on va accueillir dans notre salle après, a posteriori. Et donc ça c'est important aussi. Il n'y a que ici qu'on peut créer des choses comme ça. Ça ne tombe pas d'un coup au Mans comme ça, ce genre de rencontres.
En tout cas, pour ceux qui ont prévu d'aller à Cannes, sachez que si vous connectez à 7h01, c'est même pas la peine d'essayer. Hein. On est vraiment sur un truc qu'on a rarement vu. Comment ça se passe justement sur le terrain? Combien de films que tu regardes? Combien de films tu regardes pendant 2 semaines, puisque tu arrives quelques jours avant?
Alors moi, je me fixe toujours un objectif de minimum 50 films, c'est-à-dire grosso modo, je fais depuis 2 ans, ça dépend. D'une année à l'autre, je peux changer de programme, mais là, ça fait 2 ans que j'aime bien faire toute la compétition. Histoire de quand même, même si ce sont des films évidents à programmer, c'est sympa quand même de tous les voir. Et je vais rajouter une 30aine de films qui appartiennent aux autres sélections. Là, cette année, vu la difficulté de trouver les places sur la 15aine des réalisateurs, la semaine de la critique, je vais avoir tendance à... J'ai fait plus de patrimoine sur la première semaine que d'habitude, mais ça m'a permis de faire des séances assez mythiques. J'ai pu voir Les années des clics de Raymond Depardon en sa présence, et aussi Law and Order de Wiseman en sa présence. Ça, c'est des temps importants qui vont peut-être dessiner des rétrospectives à venir. Donc je ne lésine pas non plus sur ce patrimoine. Souvent, les exploitants dans nos salles, telles que les cinéastes, on a tendance à pas prioriser le patrimoine à Cannes, parce que ce n'est pas un festival de cinéma de patrimoine. Mais n'empêche que des rencontres comme Wiseman, Depardon, et puis hier, j'ai vu un film indien que j'aurais sans doute jamais vu autrement, et qui peut laisser quand même aussi place à de la réflexion sur comment on va construire les prochaines rétrospectives. Donc voilà, l'équilibre entre la compète, les autres sélections. On a aussi l'ACID, c'est l'association des cinémas indépendants pour leur diffusion, et c'est la seule sélection à Cannes qui ne fait pas de compétition. C'est les distributeurs eux-mêmes qui montrent, les réalisateurs pardon, eux-mêmes qui montrent leurs films. Donc tout ça, on va essayer de faire sa petite tambouille, mais là pour l'instant, cette année, sur la première semaine, je priorise vraiment la compète, le patrimoine et puis un peu la semaine et la quinzaine. Quoi.
50 films, c'est quand même énorme en 2 semaines. Comment est-ce que tu arrives à gérer l'organisation et puis même la fatigue et voire même la concentration au fil des jours?
Alors le plus dur, c'est d'avoir les places, déjà, ça c'est évident, et moi je me rends compte d'année en année que si on ne connaît pas un peu les distributeurs, c'est très très compliqué de voir 5 films par jour. Là, j'ai de la chance depuis le début de la sélection, quand je n'ai pas les places, c'est des personnes que je peux connaître, donc je vais obtenir comme des places, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de prendre leur valise dès les premiers jours de Cannes, parce qu'ils sont dégoûtés de voir que 2 films, et ça ne vaut pas le coup d'aller à Cannes si c'est pour effectivement voir 2 films par jour. Donc ça, c'est le premier point qui n'est pas évident. Après, il y a la question du rythme. Moi, c'est clair que là, j'ai un rythme sur la première semaine qui est plutôt bon élève, où je vais finalement faire des séances toute la journée, mais pas forcément traîner tard le soir. Même sur les séances de 22, j'évite d'en faire en première semaine pour pas trop me griller. Et puis en général, après, quand on est dans le rythme, ça roule tout seul. Hein. C'est une question d'habitude. Il faut juste être endurant, je pense. C'est une question de régularité.
C'est une question d'organisation aussi. Est-ce qu'il y a une morning routine? Est-ce qu'il y a une question d'agenda précisément? Comment est-ce que ça se passe pour, justement, en dehors de se connecter absolument à 6h59 au plus tard, comment est-ce qu'on arrive à rentrer 5 films dans une journée qui du matin au soir?
Bah, le premier truc moi, que tout le monde fait, hein, c'est quand on arrive à Cannes, on prend le planning et puis on a les 5-6 sélections. Comme je dis, il y a la compétition, il y a Un Certain Regard, maintenant il y a Cannes Première, il y a la Semaine de la Critique, la Quinzaine des Cinéastes, la CID et même Cannes Classics, donc les films restaurés. On va prendre toutes ces sélections, on va éplucher chaque ligne, donc chaque journée, et puis on va regarder chaque tranche horaire, à partir de 8h30 du matin, les premières séances, jusqu'à 22h45, minuit, les dernières, et on va essayer de se faire un Tetris chaque jour de 4-5 films, possiblement, en fonction des durées, en fonction des distances entre les lieux. Donc ça, c'est... Et puis ça, c'est pas très compliqué à faire, c'est le plus dur. Hein. Une fois qu'on a fait ça, il faut obtenir les places. Après, c'est bien quand on connaît quand même bien le festival pour connaître les astuces, les endroits à éviter pour pas se retrouver perdu dans des foules. Il y a aussi plein de petites astuces hein, pour rentrer, même quand on n'a pas de place vraiment dans certaines salles. On peut quand même arriver en dernière minute et passer. Et puis voilà, il y a quand même un côté, on le sent, ceux qui ont de l'expérience, ils arrivent à leur fin.
Pendant la séance, il y a une organisation particulière. Est-ce que tu prends des notes, par exemple? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers que tu essayes de retenir dans un film pour ne pas l'oublier, surtout quand on en voit 50? Là aussi, ça nécessite une organisation. En tout cas, c'est ce que je fais, par exemple, en tant que journaliste pour préparer l'émission, hein, de prendre des notes, parce qu'il y aura une chronique et un retour à faire sur les 4-5 films qu'on a pu présenter à l'antenne cette semaine.
Alors non, je prends évidemment pas des notes pendant le film, faut pas déconner, déjà que les gens qui sortent leur téléphone, moi à Cannes, ça me fait vriller. D'ailleurs, ça c'est un problème, mais bon, on le voit, il y a
un peu... avoir un calepin.
Il y a un public versatile, mais non, mais même quelqu'un qui écrira à côté de soi, c'est insupportable. Donc non, il n'y a pas besoin. Moi, j'ai ma petite astuce, c'est que j'ai un tableau des étoiles comme le font les presses, quoi, où je mets tous les titres dans mon tableau. Je mets tous les titres des films que je vois, que je rentre au compte-gouttes. J'inscris déjà les films que je vais voir dans la journée, et puis je mets des étoiles de 1 à 5, en gros. 1, c'est pas bien du tout, et puis 5, c'est le chef-d'œuvre, quoi. Et ça, déjà, ça va m'aider à lister tous les films que je vois. Je réévalue ce tableau tous les jours, depuis le début, en fonction de ce que je vois, pour homogénéiser et comparer un peu les films. Et puis à la fin, ça peut m'arriver d'écrire effectivement des micro-critiques pour moi. Mais c'est surtout en parlant. En fait, on parle tout le temps avec les gens, même des gens qu'on ne connaît pas. Des fois, dans les films, on va se dire, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que vous avez aimé, etc. Puis on va confronter nos avis, parce que moi-même, je peux sortir d'un film et être totalement incertain quant à ce que j'ai vraiment aimé ou pas. Mais finalement, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est de discuter de la matière, d'interroger, d'aller en discutant avec les gens, on se rend compte de certaines choses qu'on n'a peut-être pas vues au premier abord, etc. Donc on va nourrir la réflexion en parlant tout au long du festival des films qu'on a vus, et puis comme ça ils vont rester en nous. Et puis après, effectivement, il faut cultiver sa petite mémoire, mais quand on est frais, disponible, tous les films on s'en souvient très très bien, même quand on en a vu 50, je peux vous assurer que si on dort pas, on se rappelle très bien des 50. Faut juste bien les regarder, parce qu'évidemment quand on fait comme les touristes cannois qui viennent juste là pour le prestige, à être sur son téléphone pendant toute la séance ou se barrer à la moitié du film, ça n'a pas d'intérêt. Mais si on regarde vraiment, c'est bon, quoi.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui partent au bout de 10 minutes, une demi-heure, un trois quarts d'heure. Tu parles beaucoup du lien avec les gens ici à Cannes. Le lien entre les différents professionnels et les différents métiers professionnels du monde du cinéma sont assez forts. C'est facile d'entretenir du lien, et important également.
Ben, je dis souvent que j'aime autant les gens que le cinéma, donc oui, je m'ennuierais un peu si à Cannes j'allais juste voir des films et que j'étais tout seul dans mon coin. Moi, j'aime bien me faire des copains et puis discuter un peu des choses. Donc côté distributeur comme côté exploitant de d'autres villes en France, il y a des personnes que j'aime vraiment retrouver, hein, comme chaque année, comme si on se retrouvait à la colo, quoi. Donc ça, c'est plutôt plaisant. C'est même, ça devient d'année en année de plus en plus dur, parce qu'on n'arrive pas à voir tout le monde. Parfois on se croise, on se fait coucou, et puis on n'a pas forcément le temps de passer un vrai moment ensemble, mais effectivement, d'année en année, on va rajouter des strates de connaissances qui, comme nous, vont venir chaque année. Et ça rend la chose aussi très agréable, et surtout quand c'est fait sincèrement, parce que moi, je cherche pas à faire du réseau. J'ai pas vraiment besoin, en tant qu'exploitant, en tant que programmateur de salle, de faire un réseau particulier. Hein. Le réseau, c'est celui qu'on connaît déjà, les personnes avec qui on travaille, les distributeurs avec qui on travaille par téléphone toute l'année. Là, on a l'occasion de passer un moment un peu ensemble. Mais il faut être honnête, c'est pas le meilleur festival pour ça non plus, parce qu'il y a trop de monde, c'est too much, quoi. Si on veut passer des vrais bons moments, mieux vaut des festivals plus petits comme La Rochelle, où on va avoir beaucoup moins de touristes et beaucoup plus de temps pour discuter.
Et alors, ça fait plusieurs années que tu viens ici. Est-ce que justement, il y a des moments qui t'ont marqué en particulier? Donc, tu as pu monter plusieurs fois les marches, c'est ce qui marque toujours la première fois qu'on le fait. Est-ce qu'il y a eu des projections, des rencontres avec des célébrités, des personnes du cinéma qui t'ont marqué?
Dans ce qui vient au premier abord, la rencontre, la masterclass Clint Eastwood pour la 70e édition, c'était donc il y a 7-8 ans, ça c'était quand même quelque chose. Pour le coup, je raconte souvent cette anecdote, mais c'était un grand moment. Cette année, De Pardon et Wise Man, hein, c'est quand même deux géants de la photo, du doc, du cinéma et de la photo. Et c'est vrai que dans la salle Buñuel, qui est tout en haut du palais, que moi j'appelle le grenier parce qu'elle est tout en haut et elle est assez sympathique, c'est souvent ma récréation à Cannes. Quand je trouve pas de créneau, je vais en salle Buñuel voir un film restauré. Et cette année, voir dans cette petite salle deux films en leur compagnie, j'étais juste à côté d'eux, c'est quand même des sacrés personnages qui donnent envie de les inviter au Mans d'ailleurs, hein, je le dis là comme ça, mais Wise Man, y a une grande rétrospective intégrale Wise Man à Pompidou à la rentrée, et ils vont ressortir Météor Distribution, trois films de jeunesse de Frédéric Wise Man, et je me garde à l'idée que Le Mans c'est pas loin de Paris, que peut-être on pourrait essayer de faire une rencontre dans les mois à venir. Donc ça c'était un des temps forts. Autrement, là comme ça, y a plein de moments sympas, hein, comme Coris Maki l'an dernier où j'ai pu faire la montée des marches à côté de lui. Là cette année, il y aura Jazanke, c'est tout à l'heure, dans une heure, pour la montée des marches de son film qui est en compétition, et ça risque d'être assez fort aussi puisque je serai en fosse d'orchestre, donc pas très loin du monsieur, qui est accessoirement le premier réalisateur à qui j'ai consacré une rétro intégrale il y a quelques années au cinéaste, donc ça fait plaisir de continuer à voir son travail. Et puis après voilà, il y a plein de moments. Il y a peu de moments où je rencontre vraiment moi des personnes connues, ça m'intéresse pas trop pour être honnête.
Alors pour terminer cet entretien, rapidement, tu as beaucoup parlé en début d'entretien du label RSC. Qu'est-ce qu'on entend par ce RSC? Parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, quand on parle des cinéastes, on visualise à peu près l'identité des films proposés, des thèmes qui sont abordés. Mais qu'est-ce que ça désigne concrètement, RSC?
C'est des films qui ont évidemment une dimension un peu d'auteur, cinéma émergent. Ça peut être des premiers films, c'est des œuvres qui se distinguent par une écriture, par une mise en scène qui cherche à renouveler un peu le genre. En gros, c'est tout ce qui n'est pas du cinéma commercial, quoi, du cinéma gros budget, oui et non, parce qu'on peut être un film à 120 millions comme Megalopolis et être un film qui sera classé RSC parce qu'il a cette dimension de recherche, de qualité.
Comme Babylone l'année dernière qui est passé au cinéaste.
Tout pareil. Après, moi, je fais même pas attention à ces mots-là. Le mot RSC, pour moi, j'aurais envie de dire, ça se voit, c'est comme la musique indé, vous allez pouvoir écouter du jazz, de la pop, du rock ou du rap, il y a plein de genres différents. Il faut éviter les étiquettes en cinéma, il faut juste aller voir tous les films, et après la dimension RSC, ça devient un peu naturel, on voit très bien de quoi on parle, mais ça suffit pas à résumer ce qu'on montre aux cinéastes, à mon avis. Il y aurait plusieurs niveaux d'RSC, faudrait peut-être dire ça.
Absolument, merci beaucoup Malo d'avoir répondu à notre invitation.
Avec plaisir.
On te retrouve dimanche sur notre antenne et cette fois-ci on parlera des films et des films projetés, des coups de cœur. On fera un retour sur cette première semaine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. C'est un programme que vous pouvez retrouver en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous retrouve ce dimanche pour une nouvelle émission depuis Cannes. Il y aura des surprises, il y aura des rencontres. Vous verrez qu'on parlera également d'intelligence artificielle au sein du cinéma, puisqu'il y a des choses qui sont présentées dans ce Cannes 2024. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.